Ce matin, nous allons faire une lecture dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 24. Actes des Apôtres, chapitre 24, où nous allons lire les versets 10 à 27. Actes des Apôtres, 24, versets 10 à 27. Où il est écrit: après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit: sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'est à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux: c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant: quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit: « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 années s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Amen. La prédication de ce matin a pour titre « Des oreilles réceptives à la vérité ». Des oreilles réceptives à la vérité. Depuis maintenant quelques bonnes dizaines d'années, ça n'a pas toujours été comme ça, nous vivons dans une ère de publicité. Nous vivons dans un monde publicitaire, un monde de publicité, un monde où la publicité est omniprésente. Il y en a absolument partout. Un monde dans lequel on cherche à nous vendre des choses ou à nous donner envie d'avoir, de prendre ou d'acheter des choses. Et donc, parce qu'on veut nous vendre des choses, parce qu'on veut nous donner des choses, parce qu'on veut qu'on puisse acheter, s'occuper, aller à des endroits, eh bien, il y a toute une dynamique de publicité dans laquelle on cherche à rendre ce qu'on veut vendre attirant. C'est ça la publicité. Une publicité, ça sert à rendre attirant quelque chose que l'on veut donner à quelqu'un, de telle sorte que la personne le voit sous son meilleur aspect et que, voyant la chose sous son meilleur aspect, eh bien, la personne veut l'acheter. Alors, on dit acheter, mais ça peut être aussi les voyages, ça peut être les activités, tout ce qui est... Il y a plein de choses qu'on essaie de nous vendre, et pour nous vendre cela, eh bien, on essaie de présenter les choses sous leur meilleur jour. On essaie de rendre les choses attirantes, on essaie de rendre les choses séduisantes, et on essaie de faire en sorte que la personne qui voit, finalement, ait envie. Et la publicité dans notre monde est omniprésente. À la télévision, dans nos boîtes aux lettres, sur les panneaux publicitaires, dans la rue, sur les vidéos YouTube. Vous savez que quand vous regardez une vidéo YouTube, sauf si vous êtes riche et que vous avez YouTube Premium, mais ça m'étonnerait. T'as pas toi, ça? Ça m'étonne. Non, pas que t'es riche, mais parce que tu as toujours les petits trucs de dernier, les trucs que je ne fais pas, toi tu les fais en général. Eh bien, si vous n'avez pas YouTube Premium, eh bien, quand vous regardez une vidéo, elle s'interrompt. Et on vous parle d'un truc qui n'a rien à voir, il y a un bonhomme qui raconte absolument n'importe quoi, et vous ne savez pas, voilà. Donc c'est très embêtant, parfois vous regardez quelque chose d'intéressant, et puis un type qui ne sert à rien commence à raconter, voilà. Bon. Ça c'est sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, même chose, dans la rue, on l'a dit, la publicité est absolument partout, et tout est fait pour que nous soyons attirés par ce qui nous est montré. Et il y a dans cela, dans cette ère de publicité, une tentation très forte dans laquelle pourraient tomber les disciples de Jésus-Christ, pourraient tomber les serviteurs de Dieu, la tentation de vouloir rendre le message de l'Évangile attirant, séduisant. La tentation de faire en sorte que le message de la parole de Dieu attire et donne envie. La tentation de le présenter de la façon la meilleure, la plus belle, pour que ceux qui entendent, finalement, aient envie d'acheter. Alors, si on prend une expression un peu vulgaire, mais finalement assez étendue, ça voudrait dire la tentation de rendre le message de l'Évangile sexy. Sexy signifie attirant. De rendre le message de l'Évangile attirant pour attirer un maximum de personnes. Et pour être sûr que présenté de cette façon, les personnes qui vont l'entendre vont le recevoir. Dans le texte que nous avons lu, il est question de l'apôtre Paul qui est envoyé vers le gouverneur Félix pour être jugé. Alors l'apôtre Paul est accusé de provoquer des troubles chez les Juifs du monde entier, dit le texte. On l'accuse d'être un chef de secte, puisque le christianisme était une secte à l'époque. On l'accuse de soulever le peuple, c'est-à-dire d'amener le peuple à la rébellion contre les autorités. On l'accuse de profaner le temple, de salir le temple, ce qui est un mensonge. Ce sont toutes des accusations qui sont finalement mensongères. Et par la suite, Félix rappelle Paul parce qu'il est d'accord de l'entendre parler de l'Évangile. Félix dit à Paul, tu peux revenir, et j'aimerais bien entendre ce que tu as à dire sur l'Évangile de Jésus-Christ. Mais il y a un moment où Félix, entendant le message de l'Évangile, va avoir ses oreilles qui se ferment. Il est très intéressé à la base. Le texte nous dit qu'il invite même sa femme, Drusille, pour entendre le message de l'Évangile. Il a les oreilles grandes ouvertes, il est passionné, il a envie d'entendre. Mais à un moment donné, ses oreilles se ferment. Et le texte nous dit qu'il y a trois sujets qu'aborde Paul, ils vont avoir pour effet de fermer les oreilles de Félix. Et sa solution, quand il a entendu ces sujets qui ne l'intéressaient pas ou qui le dérangeaient, ça a été de mettre fin à l'entretien. Et donc, quand il a entendu ces trois sujets-là, il a dit, oui, le début, ça m'intéresse, mais là, oh, on s'arrête, je t'entendrai une autre fois. Tu peux rentrer chez toi parce que ça me dérange. Sa solution a donc été de faire taire Paul, qui le remettait en question au travers de ce qu'il disait. En fait, le texte nous montre qu'en abordant ces trois sujets, l'apôtre Paul est venu un petit peu sur ce qui était dérangeant pour lui, pour sa vie, pour l'état dans lequel il était, la situation dans laquelle il était. Et le texte nous donne les trois sujets qui ont fait fermer les oreilles de Félix. Premièrement, la juste manière de vivre. Alors, certains textes, certaines traductions ont la justice, mais ici, ce n'est pas la justice dans le sens la justification par la foi, c'est-à-dire comment devient-on juste en croyant en Christ. Mais ici, c'est la justice dans le sens comment est-ce qu'on vit justement devant Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour vivre justement devant Dieu. Deuxième sujet qui va fermer les oreilles de Félix, c'est la maîtrise de soi. La tempérance, la continence, d'autres textes le disent. Et troisième sujet qui va fermer les oreilles de Félix, c'est le jugement à venir. En d'autres termes, trois trucs qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. On pourrait dire que c'est un petit peu la face désagréable, la face un petit peu moins cool de ce qu'on a à dire. Et en fait, on peut considérer, quand on connaît l'histoire, que Félix s'est senti directement visé par ces sujets-là. On est toujours d'accord avec tout quand c'est pour les autres. On est toujours d'accord avec tout quand on n'est pas concerné. Et d'ailleurs, dans notre monde d'aujourd'hui, on est toujours d'accord que les autres, dans d'autres pays, se fassent tuer, tabasser injustement, du moment que nous, on est tranquille. Mais soit. Il se sent visé, premièrement, parce que, en fait, sa femme Drusille, qui était une juive, était à la base la femme d'un autre roi, qui s'appelle Aziz, roi des Mèdes, donc en Syrie. Et Félix a enlevé, en fait, cette femme de son mari, et il l'a prise pour femme. Alors, certains disent, ben non, en fait, c'est elle qui est partie, et elle est partie, et d'autres disent qu'en fait, Félix a fait des entourloupes pour faire en sorte qu'elle s'en aille de chez son mari, qu'elle vienne chez lui. Enfin, voilà, c'est une histoire dans le genre. Toujours est-il que, par des manœuvres qu'on ne comprend pas trop, Félix était avec une femme qui n'était pas la sienne, c'était la femme de quelqu'un d'autre. Et donc, il vivait avec elle, et Drusille était là. Au moment où Paul parle justement de ces sujets-là, sa femme est à côté de lui. Et donc, on pense qu'au travers de l'énonciation de ces trois sujets, Félix est mal à l'aise par rapport au fait qu'il se rend compte, bah oui, mais moi, oui, je suis pas dans. Voilà, c'est pas bien ce que je fais, en d'autres termes. Deuxièmement, Félix était réputé pour être injuste dans sa façon de gouverner. Il était réputé pour ne pas être un bon chef, un bon roi, un bon dirigeant. Et l'histoire nous rapporte que c'était un dirigeant qui trempait dans beaucoup de malversations. D'ailleurs, un historien de l'époque, qui s'appelle Tacite, donc c'est le nom de l'historien, a dit au sujet de Félix, dont il est question dans le texte, il a dit « Il pensait que tous les crimes seraient impunis pour lui. » Donc, il pensait que tous les crimes seraient impunis pour lui. Donc, évidemment que quand l'apôtre Paul en vient à la question du jugement à venir, ça le met mal à l'aise, puisqu'il sait bien que s'il y a un jugement à venir, mais il est mal barré, puisque lui-même est quelqu'un qui vit, et qui ne fait pas les choses comme il faudrait. Il pensait que tout serait impuni pour lui. C'est un truc de certains hommes politiques, de certains dirigeants politiques. Plus maintenant, les dirigeants politiques maintenant sont différents. Mais à l'époque, les dirigeants politiques étaient comme ça. Ils pensaient que, voilà, comme ils étaient chefs et comme ils dirigeaient, ils pouvaient faire n'importe quoi. Surtout qu'il faut savoir que, pas forcément à son niveau, mais à certains niveaux, quand on dirigeait à l'époque, on était assimilé à être Dieu. On était suprême. Le texte nous donne aussi une idée de qui était Félix, parce qu'il nous dit que Félix faisait souvent venir Paul parce qu'il espérait qu'il lui donnerait de l'argent. C'est un autre élément qui nous donne une idée de qui était le bonhomme. Donc il était en prison, il le faisait venir souvent en se disant, ben voilà, à un moment donné, il va me payer, il va me donner quelque chose, et voilà. Donc il y avait un intérêt. Et donc on nous montre que c'est aussi quelqu'un qui est cupide, qui aime l'argent, et qui cherche finalement à avoir de l'argent. Cette cupidité, elle est d'autant plus problématique que c'est un dirigeant et que donc il laissait son amour de l'argent guider sa façon de diriger le pays. Enfin, le texte nous dit qu'il a laissé Paul en prison pendant 2 ans parce qu'il voulait se ménager les bonnes grâces des Juifs. Donc, il voulait être bien vu par les Juifs et donc il a laissé Paul en prison pendant 2 ans. Donc, quand on vous dit que les chrétiens d'aujourd'hui sont des mauviettes, on est dépassés par un rien. Il est resté en prison pendant 2 ans. Vous imaginez ? 2 ans de prison. Enfin, mais pourquoi ? Parce que simplement, en fait, Félix ne voulait pas être mal vu par les Juifs. Donc il ne prenait pas ses décisions de façon juste, de façon correcte, en regardant ce qui est juste de faire. Il prenait ses décisions en fonction de ce qu'il peut gagner, de ses propres intérêts, et en fonction de ses intérêts personnels. C'est un homme qui ne vivait donc pas selon ce que Dieu souhaite, et il semble donc clair qu'il a été mal à l'aise d'entendre toutes ces paroles ou toutes ces interpellations de Paul, en tout cas ces trois sujets. Et c'est intéressant de voir que le texte nous dit que Paul est venu pour parler de la foi en Jésus-Christ. D'accord ? Donc Paul est venu pour parler de la foi en Jésus-Christ. Et à l'intérieur de la foi en Jésus-Christ se trouvent ces trois sujets. En d'autres termes, la question de la façon de vivre, la question de la maîtrise de soi et la question du jugement à venir, ce ne sont pas des questions en plus de la foi en Christ. Ça fait partie de la foi en Christ. Ce sont des sujets intégrés à la foi en Christ. On ne peut pas parler de la foi en Christ sans parler de ces aspects-là. On pourrait dire qu'il y a une face A intéressante, alléchante de la foi en Christ, l'amour de Dieu, la grâce surabondante de Dieu au travers de son Fils, le pardon des péchés, la nouvelle naissance, l'héritage éternel. Mais il y a aussi une face B, notamment la maîtrise de soi, le fait de chercher à vivre une vie qui plaise à Dieu et le fait qu'il y a un jugement. Ça fait partie du message. Ça fait partie de la foi en Christ. Ça fait partie de la doctrine à transmettre. Paul aurait pu se contenter de ne présenter que la face A et pas la face B. Parce qu'il savait bien qu'en présentant la face B aussi, il risquait sa vie. D'ailleurs, souvenez-vous qu'en 2016, nous avions fait une série de trois messages intitulés « Nos mauvaises indignations », nos affreuses indignations et nos horribles indignations. Vous avez oublié, je sais, c'est pas grave. J'ai bien compris que vous ne retenez rien. Bon, et on avait vu l'histoire, justement, d'Hérode, et on avait vu que Jean-Baptiste, lui, s'était fait couper la tête, s'était fait tuer, parce qu'il avait dit à Hérode qu'il ne pouvait pas prendre cette femme-là. En d'autres termes, quand vous êtes devant un roi à cette époque-là, et que vous venez lui dire ce que Dieu dit qu'il ne peut pas faire, vous êtes en grand danger. Paul aurait pu, par peur, ne pas aborder ces questions-là. Il y a donc bien dans la foi, dans notre foi, la foi que nous partageons, des aspects pas attirants. Mais ils en font partie. Et la Bible nous enseigne que plus les temps vont avancer, plus les hommes ne supporteront pas d'entendre la saine doctrine de l'Évangile. Et il nous est dit dans 2 Timothée 2, versets 2 à 4, dans 2 Timothée 2, versets 2 à 4, où Paul parle à son fils spirituel Timothée, il lui dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur, et en instruisant. » Verset 3, donc 2 Timothée 2, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Le texte nous enseigne donc que plus les temps vont avancer, plus les gens ne voudront pas de la face B de la foi. Les gens ne voudront pas et donc ils chercheront à se donner des maîtres qui leur diront des choses agréables à entendre. Des choses cool, des choses attirantes. Ils se donneront une foule de docteurs qui détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc des trucs qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas de sens et qui les détourneront. Voilà la tentative, la tentation qui est devant l'Église et devant chaque chrétien. La tentation de rejeter la face B de la foi et de s'en tenir à ce qui est attirant, à ce qui est sexy, à ce qui est cool. Et nous aussi, comme enfants de Dieu, nous risquons d'être comme Félix, d'avoir nos oreilles grandes ouvertes pour certains sujets et de la fermer pour d'autres. D'être le cœur grand ouvert quand on nous parle de certaines choses, et puis quand on arrive à d'autres sujets, hop, les oreilles se ferment, parce que ces sujets-là, soit nous remettent en question, soit sont difficiles pour nous. Alors ce matin, quels sont les sujets qui te font fermer les oreilles? Quels sont les sujets que je n'aime pas entendre? Parce que pas vous, mais moi. Quels sont les sujets que je n'aime pas entendre? L'obéissance à Dieu, la prière, le jeûne. La Bible parle du jeûne. Elle nous parle du jeûne comme une discipline que les chrétiens doivent. Le jeûne, peut-être. Les dons financiers pour le royaume. L'autorité dans l'Église. L'impudicité, la fornication. Le service, les sacrifices pour le Seigneur, le combat spirituel, le pardon. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler du pardon, parce qu'on sait bien qu'on a du mal avec ça. Quels sont les sujets qui ont la puissance de faire fermer nos oreilles? Nous en avons tous. Tous. Nous avons des sujets que nous n'aimons pas entendre. Tous, nous avons des choses pour lesquelles nous nous passerions bien. Il y a des prédications qu'on aimerait tous ne pas entendre. Et pourtant, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la face B aussi. Nous avons besoin de tous les aspects qui ne sont pas attirants dans la foi. Nous avons besoin de tous les aspects qui nous remettent en question. Nous avons besoin de tous les aspects qui sont rudes. Parce que la parole de Dieu est pour notre bien. Premièrement, la parole de Dieu est la vérité. Deuxièmement, elle est pour notre bien. Même lorsque la parole de Dieu ne nous fait pas du bien, elle est pour notre bien. La parole de Dieu est pour notre bien, même quand elle ne nous fait pas du bien. Parce que c'est un Père aimant qui nous l'adresse. Parce que c'est un Dieu d'amour qui nous parle. Et lorsqu'il nous parle, c'est toujours pour nous faire grandir. Jamais pour nous détruire, jamais pour nous humilier, mais toujours pour nous faire grandir. Il nous est dit que l'Écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. De plus, les vérités auxquelles nous fermons le plus les oreilles, sont souvent celles dont nous avons le plus besoin. Ce que nous ne voulons pas entendre, c'est ce dont nous avons besoin. Le médicament que nous n'avons pas envie de prendre, c'est celui-là qui peut nous aider à mieux vivre. La Bible nous enseigne que ce mécanisme est un mécanisme de tous les hommes. Il est écrit, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Lorsque la lumière vient, lorsque la vérité vient, les hommes n'aiment pas. Tous, autant que nous sommes, nous n'aimons pas parce que la lumière, elle met en évidence ce qui ne va pas. La nuit, tous les chats sont gris. La nuit, on ne voit pas les imperfections. Mais quand on met la lumière, tout à coup, ça se voit. Nous n'aimons pas la vérité. Parce que la vérité nous met face à nous-mêmes, face à nos difficultés, face à ce que nous sommes appelés à faire. Des oreilles réceptives à la vérité. Voilà notre appel. Dieu nous appelle à être des chrétiens qui, jour après jour, peuvent entendre un peu plus. pour pouvoir être des gens qui peuvent tout entendre de ce que Dieu nous dit. Pas de ce qu'un humain nous dit, puisque ce qu'un humain dit, ça s'appelle une opinion, mais de ce que Dieu nous dit. Avoir des oreilles réceptives à tout ce que Dieu veut nous dire. Avoir des oreilles réceptives aux aspects les plus dérangeants, les plus bizarres. On a rappelé il y a quelques dimanches que dans le Premier Testament, les enfants d'Israël, ils avaient plein de commandements dont ils ne connaissaient pas le sens. C'est ce qu'on oublie souvent. Dans les 613 commandements, il y en a certains dont on ne sait pas pourquoi Dieu a dit ça. On ne sait pas pourquoi on ne peut pas manger ça et pas ça. Ils ne savaient pas. Ils obéissaient parce que Dieu l'avait dit. Ils obéissaient parce que c'était la volonté de Dieu. Quelle que soit la façon dont le monde évolue, il y aura toujours une phase B à l'évangile. Et si nous voulons que l'évangile reste l'évangile, nous devons pleinement accepter la phase B et accepter que la parole de Dieu vienne à nous telle qu'elle est. Aurélien a fait une remarque il y a quelques jours qui m'a semblé d'une sagesse vraiment merveilleuse. Il disait, ben oui, quand vous suivez les prédications sur Internet et que vous regardez une église et que vous suivez les prédications, vous choisissez la prédication que vous voulez écouter. Vous avez les titres et vous choisissez celle qui vous intéresse. Mais le dimanche à l'église, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Vous arrivez le dimanche, vous vous asseyez, de quoi est-ce qu'il va parler, on n'en sait rien. Ça tombe dessus comme ça. Eh bien, c'est ça l'église locale aussi. C'est que nous venions tous le cœur ouvert pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Moi-même, quand je suis assis et que j'écoute une prédication, je ne l'évalue pas. Je n'ai pas d'idée, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Ma seule question, c'est est-ce que c'est biblique et qu'est-ce que ça me dit à moi? Qu'est-ce que ça peut me dire? Et en quoi cette parole est censée me faire grandir dans la foi? Et même si c'est une chirurgie difficile, eh bien c'est ce qui est bon pour mon âme. Que Dieu nous aide, les uns et les autres, à avoir des oreilles réceptives à la vérité. Prions. Seigneur, nous te remercions pour le Père aimant que tu es. Tu disais à Timothée d'instruire avec douceur parce que tu es le Dieu doux et que dans nos faiblesses, dans nos luttes, dans nos combats, tu ne te présentes pas comme celui qui nous accuse, mais comme celui qui nous aime et qui nous relève, qui nous encourage. Nous voulons te prier, Seigneur, à l'écoute de cette parole. Nous prions pour chacun de nous, chacun de nos cœurs, pour que tu nous aides à étendre les sujets que nous sommes capables d'entendre et que tu nous aides à être des chrétiens réceptifs à la vérité, réceptifs à toutes les vérités désagréables, difficiles, qui nous remettent en question, qui nous demandent de changer un ou l'autre aspect de notre vie. Seigneur, que nous ne soyons pas des chrétiens qui font du shopping, que nous ne soyons pas des chrétiens qui choisissent, que nous ne soyons pas des chrétiens qui n'acceptent que la bonne face, mais que nous soyons des chrétiens qui acceptent toute ta parole, qui reçoivent toute ta parole, parce qu'ils savent qu'elle vient de toi et qu'elle est la vérité. Nous ne pensons pas que cela est capable par nous-mêmes. C'est pour ça que nous demandons l'aide de ton Saint-Esprit dans chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, dans nos oreilles, pour que nous puissions être en tout temps réceptifs à la vérité. Amen.